Laudetur Jesus Christus.
Il est l'exilé, l'itinérant, mais aussi le guerrier et le père. À la veille du départ du pape François pour l'Irak, retour sur la figure d'Abraham, père des trois grands monothéismes. Cela sera dans notre dossier à suivre en fin de journal. À la une de l'actualité, l'enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes présumés d'Israël dans les territoires palestiniens. Et une nouvelle journée sanglante en Birmanie. 38 personnes ont été tuées hier. Ce jeudi s'annonce tendu à Rangoon, où de nombreux commerçants ont aujourd'hui baissé les rideaux. Puis nous nous intéresserons aux tensions actuellement en cours au Sénégal entre les forces de l'ordre et le partisan de l'opposition Ousmane Sonko. Après 10 ans de désaccord, le ministre hongrois et son parti le Fidesz claquent la porte du PPE, la formation de droite au Parlement européen. Notre correspondant à Bruxelles nous expliquera les ressorts de cette sortie.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. La Cour pénale internationale, la CPI, ouvre une enquête sur des crimes présumés dans les territoires palestiniens, comme l'offensive israélienne contre la bande de Gaza pendant l'été 2014 ou celui de la colonisation en Cisjordanie. Une décision historique selon la direction palestinienne et plusieurs associations des droits de l'homme basées à Ramallah. Les précisions à Jérusalem de Valérie Ferron.
Cette décision va permettre l'examen de plusieurs dossiers cruciaux, dont celui de l'offensive israélienne de 2014 contre la bande de Gaza, qui avait dévasté toute l'infrastructure de ce territoire palestinien et fait au moins 2200 morts. 70% des victimes étaient des civils, dont quelques 500 enfants. La procureure Fatou Bensouda a en effet précisé que l'enquête porterait sur les éventuels crimes commis à partir du 13 juin 2014 jusqu'à aujourd'hui, soit donc 3 semaines environ avant le début de l'offensive israélienne. Les factions palestiniennes, dont le Hamas, qui ont salué la décision de la Cour, pourraient elles aussi être accusées de crimes de guerre par le lancement de milliers de roquettes pendant cette même période contre le territoire israélien. 74 Israéliens furent tués, en grande majorité des soldats. L'enquête ouverte pourra également se pencher sur un autre dossier crucial, celui de la colonisation en Cisjordanie, y compris à Jérusalem, qui est menée à l'heure actuelle à un rythme effréné et se transforme de facto en annexion sur le terrain. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et c'est un tout autre son de cloche, évidemment, du côté d'Israël, qui n'est pas membre de la CPI. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou qualifie cette enquête d'essence même de l'antisémitisme et de l'hypocrisie. Et Washington dit également s'opposer fermement à cette enquête. Direction maintenant la Birmanie. 38 personnes ont été tuées hier lors des manifestations contre le coup d'État du 1er février. C'est la journée la plus sanglante depuis le début des protestations. Aujourd'hui, de nombreux magasins ont annoncé leur fermeture, ce qui laisse présager une nouvelle journée de tension. À Rangoon, Juliette Verlin.
Malgré le très lourd bilan dans les rues hier, les manifestants continuent à se rassembler dans la ville, même si la journée a commencé très calmement. Pio Pio Mei est une jeune femme qui est venue aider à monter une barricade dans sa rue, dans le quartier de Sanchang, avec tout ce qu'ils ont pu ramener d'un chantier à côté, des sacs de ciment, des blocs de pierre ou même des pneus. Autour d'elle, ce sont surtout des jeunes qui sont habillés pour la guerre, avec masques à gaz, boucliers en bois et en plastique, ou même des paraboles de télévision. Et devant eux, un cordon de police les observe en silence. Les manifestants interpellent la police, ils leur disent qu'ils ne leur veulent pas de mal et qu'ils ne les détestent pas, seulement leur chef Min Aung Hlaing. Pio Pio Mei regrette que peu de manifestants soient dehors, mais après le nombre de tués hier, elle dit qu'elle comprend. Leur première barricade a été détruite par une pelleteuse en quelques minutes, un peu plus tôt ce matin, mais ils l'ont reconstruite tout aussi rapidement dès que la police s'est retirée. Une chaîne humaine s'est organisée pour créer des bombes à eau dans des sacs plastiques qui seront jetés sur les gaz lacrymogènes. Hier, c'est en fin de journée que la police a chargé, Pio Pio Mei s'attend à la même chose. Juliette Verlin, Rangoon, Radio Vatican.
Et hier, lors de l'audience générale, le pape François était revenu sur la répression en Birmanie. Il a appelé à la prévalence du dialogue sur la répression et la libération des prisonniers politiques. Plus d'informations sur notre site internet. Nouvelle réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Tigré. Une session qui se déroulera à huis clos, mais pas sûr qu'elle permette l'adoption de positions communes des Nations Unies sur ces violences en cours en Éthiopie. La présidentielle se prépare au Tchad. Selon l'annonce hier de la Cour suprême, 8 candidats affronteront le candidat sortant, Idriss Déby, le 11 avril prochain. Une élection sous tension. Plusieurs prétendants, dont une figure de l'opposition, Saleh Kebzabo, ont annoncé retirer leur candidature, dénonçant des pressions politiques. Idriss Déby Itno est au pouvoir au Tchad depuis 1990. Heure hier au Sénégal entre forces de l'ordre et partisans de l'opposant Ousmane Sonko. Accusé de viol, le chef du parti Pastel les Patriotes devait se rendre chez le juge d'instruction à Dakar, mais son convoi a été arrêté, provoquant la colère de ses soutiens. L'opposant a finalement été interpellé et placé en garde à vue pour trouble à l'ordre public, sans voir le juge qui devait l'entendre sur ses accusations de viol, Xavier Sartre.
Oui, alors pour bien comprendre ce qui s'est passé hier dans les rue de Dakar, Marine, dans le quartier de Colombo. Revenons un peu en arrière. Début février, Ousmane Sonko, figure de l'opposition, arrivé troisième à la présidentielle de 2019, est accusé de viol et de menace de mort par une employée d'un salon de beauté où il se rendait pour soulager des maux de dos, des faits qu'il nie. Hier, il était donc convoqué chez le juge d'instruction. Des centaines de jeunes partisans ont voulu l'accompagner. Le convoi vers le tribunal s'est mis en branle vers 9h, escorté par des forces de l'ordre. Mais les tensions entre soutien de l'opposant, policiers et gendarmes se sont accrus, les seconds tentant de disperser les premiers coups de gaz lacrymogène. À cela s'est ajouté un différend entre Ousmane Sonko et la préfecture sur l'itinéraire à emprunter. Résultat, l'opposant a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Il n'a donc jamais vu le tribunal et le juge qui l'attendait. Son arrestation a provoqué par la suite la colère de ces jeunes qu'il suivait. Des troubles ont également eu lieu dans les villes de Saint-Louis, de Ziguinchor et de Bignona. Ces derniers soubresauts ne sont que les derniers en date d'une série qui a débuté il y a un mois avec l'éclatement de cette affaire judiciaire qui se transforme en affrontement politique. La majorité, le président Macky Sall, étant accusé par les partisans d'Ousmane Sonko d'être derrière ces accusations de viol, avec en toile de fond la présidentielle de 2024.
Merci Xavier Sartre. L'Allemagne entreverrait-elle le bout du tunnel? La chancelière Angela Merkel a annoncé hier soir un plan de déconfinement progressif, avec notamment la réouverture possible de certains lieux culturels. Le pays vit sous cloche depuis la fin de l'année dernière. Au Parlement européen, les députés du Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban, ont claqué la porte du PPE, le groupe conservateur du Parti populaire européen. Son appartenance à ce groupe était largement critiquée depuis plusieurs années à cause du virage autoritaire pris par le gouvernement hongrois. Cette décision du Fidesz fait en fait suite à l'adoption d'une très large majorité ce mercredi par le PPE d'un changement dans les statuts du groupe. À Bruxelles, les explications de Pierre Benazet.
C'est un fait assez rare pour valoir d'être pointé. La décision du Parti populaire européen de modifier ses statuts a été saluée par d'autres formations politiques au sein du Parlement, les centristes de Renew et les Verts. Ceux-ci estiment toutefois que cette modification n'a que trop tardé. C'est bien sûr le Fidesz lui-même qui a décidé de quitter le groupe PPE. Les 12 députés du parti de Viktor Orban ont préféré prendre les devants plutôt que de risquer de se retrouver un jour exclus. La modification des statuts adoptée par le groupe n'est pas expressément dirigée contre le Fidesz, mais c'est évidemment pour permettre son exclusion qu'elle a été conçue. Viktor Orban n'a pas manqué de dénoncer une modification qu'il juge antidémocratique, injuste et inacceptable, mais le Fidesz était déjà sur la sellette, puisque, non content d'avoir désormais quitté le groupe du PPE au sein du Parlement européen, il est aussi suspendu du parti lui-même depuis 2 ans. La question se pose dorénavant au sein du parti de l'exclusion ou du maintien du Fidesz. Ce sera le signe du soutien dont Viktor Orban continue ou non à disposer au sein de la droite européenne. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Aux États-Unis, la bataille contre la Covid sujette aux querelles entre les États et le pouvoir central. Le Texas annonce la fin du port du masque obligatoire et la réouverture de tous les commerces. Même choix du côté du Mississippi. Des décisions qui provoquent l'ire de Joe Biden. La dernière chose dont nous avons besoin est d'un raisonnement préhistorique qui affirme que tout va bien, a déclaré le locataire de la Maison Blanche. La pandémie de coronavirus qui ne cesse de s'accélérer au Brésil, près de 2000 morts en 24 heures hier, un chiffre jamais atteint auparavant. Les écologistes sont vent debout au Mexique. Le Sénat vient d'approuver une réforme qui renforce la Compagnie nationale d'électricité. Les défenseurs de l'environnement accusent le Sénat de privilégier les combustibles fossiles aux dépens des énergies renouvelables. C'est l'une des étapes les plus emblématiques du voyage du pape en Irak, sa visite après-demain dans la plaine d'Our, dans le sud du pays, là où le livre de la Genèse situe la terre natale d'Abraham. L'évêque de Rome y participera à une rencontre interreligieuse autour de la figure du patriarche biblique, père des trois grands monothéismes. Les saintes écritures le montrent comme l'exilé, l'itinérant, l'étranger, le guerrier, le père aussi. Alors quel regard porter sur ces archétypes qui incarne dans la vie de foi du chrétien? Comment comprendre la nature et la valeur de l'héritage que laisse Abraham à la fois au judaïsme, au christianisme et à l'islam? Nous aurons ce matin des éléments de réponse avec le frère Olivier Cattel. Il est prêtre dominicain, étudiant à l'étude biblique et archéologique française, ainsi qu'à l'université hébraïque de Jérusalem. Spécialiste de la Bible hébraïque, nous l'écoutons.
Son histoire commence au chapitre 12 de la Genèse, c'est la figure de la vocation, de l'appel, d'un homme qui est appelé par Dieu et qui va répondre à cette demande en partant alors qu'il est déjà âgé sur des routes, on peut imaginer à l'époque, hein, il va traverser tout ce Moyen-Orient. Et pour le chrétien, c'est extrêmement important parce que c'est répondre aux appels de Dieu, sachant qu'il y a une bénédiction, il y a une promesse qui nous est toujours faite, même si on ne sait pas exactement comment elle va se réaliser. Abraham part en ne sachant pas trop où il va, et finalement ce que ce Dieu unique qu'il chérit et qu'il adore va lui donner. Donc Abraham va partir vraiment sur cette terre plein de confiance. Et donc pour notre vie chrétienne, je crois que c'est, on sait comme la vie chrétienne et la vie en général est difficile, on sent des appels. Et en fait tout repose sur la notion essentielle que représente Abraham, c'est la foi, la confiance en Dieu et dans le projet de Dieu pour nous, qui veut notre bien. Et en effet, Abraham va découvrir que ce Dieu qu'il apprend à découvrir, lui veut du bien puisqu'il va lui donner une descendance et une bénédiction qui demeure jusqu'à aujourd'hui.
Quelles sont les caractéristiques de sa relation à Dieu ?
Alors la caractéristique principale, c'est la foi, c'est l'abandon à la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. Il va aussi intercéder pour Sodome et Gomorre. Abraham est le bien-aimé de Dieu, il a cette relation directe, en conversation avec Dieu, et c'est à travers ce cœur à cœur qu'il va, je dirais, dessiner son chemin et dessiner le chemin du peuple que Dieu se choisit, hein, qui sera donc le peuple d'Israël, puisque c'est bien le peuple du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Abraham est appelé par Dieu à devenir le père d'une multitude. Il est donc coutume de voir en lui le père des croyants, des trois grands monothéismes. À cet égard, peut-on parler d'un héritage commun du judaïsme, du christianisme et de l'islam? Et si oui, comment le faire fructifier?
Dans le judaïsme, Abraham est avant tout la figure du patriarche, du père du peuple, de la nation et de celui qui reçoit la promesse de la terre. En christianisme, comme je l'ai déjà dit, c'est plutôt la foi. Et puis en islam, c'est celui qui fait l'expérience profonde de l'unicité de Dieu. Alors je crois que de découvrir ces différences, cela nous enrichit. Que veut dire pour moi revenir peut-être sur cette expérience profonde du Dieu unique? Comme chrétien, qu'est-ce que cela veut dire pour moi revenir sur la promesse d'une terre? Donc je crois qu'à travers cet héritage commun, on peut vraiment entrer dans un dialogue en vérité, arriver à une connaissance et une estime mutuelle hein, de nos différentes traditions.
Quel regard portez-vous sur le voyage d'un successeur de Pierre sur la terre du patriarche biblique?
Alors je trouve ça assez intéressant parce que ce que veut faire le pape François, c'était déjà Saint Jean-Paul II qui voulait le faire et qui n'a pas pu le faire à l'époque. Donc c'est un petit peu comme l'histoire d'Abraham, c'est Terah, son père, qui a commencé finalement le chemin vers la terre sainte. Et je crois que ce voyage du successeur de Pierre, c'est bien à l'image du pape François qui veut se remettre en dialogue, hein, on le sait, comme c'est important pour lui de se mettre en dialogue, on l'a vu avec l'imam d'Al-Azhar, rencontrer des peuples meurtris qui n'ont sans doute plus d'espérance et qui doivent redécouvrir, qu'ils soient finalement chrétiens, musulmans, redécouvrir leur appel commun de vocation, comment Dieu les appelle aujourd'hui sans doute à avancer ensemble, à marcher ensemble. Et je crois que de ce point de vue-là, au-delà de la symbolique, je pense que le voyage du pape dans les plaines d'Our est éminemment fondateur pour là aussi un vrai dialogue et puis essayer de rebâtir quelque chose ensemble dans des pays détruits.
Voilà, interrogé par Manuela Affigi, le frère Olivier Catel, prêtre dominicain, étudiant à l'école biblique et archéologique française, était ce matin notre invité. Le prochain retour de l'information, c'est tout à l'heure à 13h. En attendant, je vous souhaite une très belle journée.